Bonjour, bonjour, bienvenue sur nos ondes locales ou en podcast pour une nouvelle chronique du passé. Bonjour Gilliane.
Bonjour Martine. Bonjour à vous tous, auditeurs. La France célèbre le 80e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944. Voyons comment cela a été vécu chez nous.
Oui, par les répercussions qu'il a eues en Bresse-Revermont et par tous les événements qui se sont déroulés durant cette période décisive pour la fin de la guerre.
Nous en parlons après avoir écouté un extrait de la musique du film « Le jour le plus long » de Paul Anka et Maurice Jarre. Le débarquement du 6 juin 1944. Il survient après plus de 3 ans de guerre. Beaucoup d'événements se sont déroulés depuis le début des hostilités en mai 1940 sur le front ouest.
La résistance à Vichy s'est manifestée dans l'Ain dès les premières semaines qui ont suivi l'armistice. Les 3 principaux mouvements de la zone dite libre y sont représentés.
Cette résistance s'organise tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, sous l'impulsion de Charles de Gaulle et de son délégué Jean Moulin. Le commandement de l'armée secrète a été confié au général Charles de Lestrin à l'automne 1942 et les mouvements unis de la résistance sont créés à Lyon en janvier 1943.
D'abord, dans la zone libre, le département est occupé par les Allemands à cette période. Le colonel Roman Petit est arrivé depuis peu dans l'Ain pour renforcer la résistance qui, pour l'heure, collectait un maximum de renseignements utiles aux Alliés. Bientôt, elle doit accueillir les hommes qui refusent d'aller travailler en Allemagne, au titre de la loi du STO, le service du travail obligatoire, institué par une loi de février 1943. Nous l'avons évoqué à cette antenne l'an dernier.
Ces réfractaires, ou insoumis, comme on les appelle, cherchent des refuges où se cacher. Des camps sont organisés à leur intention. Ces jeunes prennent le maquis, et ce mot maquis devient alors un synonyme de résistance.
La résistance prend alors une autre dimension, où prime l'action contre l'occupant et ses partisans.
Elle organise quelques vols dans les magasins d'intendance. Là, dès le mois de janvier 1944, elle sabote les voies ferroviaires et des locomotives à Bourg ou Bellegarde, et des pylônes, pour que l'électricité produite à Pougny, en Pays de Gex, n'arrive pas aux entreprises métallurgiques du Creusot, qui ont été réquisitionnées par l'Allemagne.
Les camps du maquis sont des menaces pour l'ennemi. On a tous entendu parler des glières, mais les Allemands attaquent dans le Bugey en février 1944, dans le Revermont et encore dans le Haut-Bugey en avril. La chasse aux maquisards n'atteint guère son but, mais les troupes ennemies s'en prennent aux civils et brûlent les fermes. Chacun garde espoir, car un débarquement sur les côtes françaises se précise.
Les Alliés entretiennent l'ambiguïté sur le lieu où se produira pour que les troupes ennemies restent dispersées sur l'ensemble du territoire français. Pour le jour J, les Alliés comptent sur les résistants pour bloquer les déplacements de l'ennemi selon les modalités du plan vert.
Depuis le début de l'année, les parachutages d'armes et de munitions ont fortement augmenté pour les résistants. Curieusement, le général de Gaulle et les Français ne sont pas informés de la date du débarquement, et encore moins du lieu. Au dernier moment, les résistants seront avertis par les messages codés diffusés par la BBC. ces messages qui, chaque soir, intriguent les Français qui écoutent Radio Londres, en secret, bien sûr.
Pour fonctionner, la résistance a besoin de vivres et d'argent. Se poursuivent alors les vols de victuailles, de tabac ou de tickets d'alimentation. La résistance reçoit des sommes d'argent, mais elles sont insuffisantes. Cet argent, on le cherche là où il est, dans les perceptions, les bureaux de la poste ou chez quelques particuliers.
On demande aussi à un groupe de jeunes de viser la trésorerie générale de Bourg, située rue Ténière, dans l'ancien hôtel Marron de Meillonnat.
Ces jeunes font des repérages et élaborent une stratégie pour mener à bien leur affaire. Les conditions ne sont pas favorables lors des deux premières tentatives.
La troisième est programmée pour le lundi 5 juin à l'ouverture des bureaux.
Les hommes, arrivés de Gravel, hameau de Saint-Martin-du-Mont, se mettent en place et positionnent leur voiture pour se défiler rapidement. Comme prévu, le caissier descend bien l'avenue Alsace-Lorraine. Mais des miliciens sont aussi au rendez-vous. Deux hommes du maquis sont blessés et faits prisonniers. Ils en réchapperont. Mais le coup a échoué. A-t-il été éventé par maladresse? Ou est-ce une trahison? Le mystère demeure. Quant aux miliciens, ils n'ont pas terminé leur journée.
L'après-midi de ce même lundi 5 juin, vers 16h10, la milice débarque au lycée Lalande, en pleine épreuve du baccalauréat. Tous les élèves et le personnel sont sommés de se rassembler dans la cour. Les jeunes filles sont ensuite enfermées dans une salle. Des garçons sont appelés par leur nom. Finalement, une quarantaine d'hommes sont emmenés en camion et sans ménagement en direction de Saint-Amour.
Ils sont ramenés à Bourg en soirée et beaucoup sont libérés, sauf 11 élèves et un répétiteur. Eux, ils seront conduits à Lyon le 21 juin pour être expédiés dans un camp de travail en Haute-Silésie, aux confins est de l'Allemagne, d'où ils reviendront la guerre finie.
Nous arrivons au mardi 6 juin, avec une double surprise pour les Burgiens. Une première, l'annonce du débarquement sur les côtes françaises. Le lieu exact sera indiqué dans la matinée. La désinformation des alliés a parfaitement fonctionné. La seconde surprise est nettement moins agréable.
Ouais. La ville est mise en état de siège par les miliciens qui se sont installés aux entrées de la ville. Toute circulation est interdite. Les communications sont coupées. Environ 60 arrestations sont effectuées. La ville est sous cloche. Et cela dure jusqu'à la fin des opérations de la milice, à 17h. Les Burgiens peuvent alors, enfin, descendre dans les rues.
Des attroupements se forment. On discute des événements de la journée et de ces misères d'un confinement imprévu. Un rapport de gendarmerie indique que du débarquement, on ne parle que dans les cafés, pas dans la rue. La situation de la ville est bien particulière.
Mais toutes les routes conduisant à Bourg sont occupées par des groupes de maquisards qui ont établi de solides barrages à moins de 10 km de la ville. Ils ont abattu des arbres, creusé quelques tranchées et ils gardent ces barricades avec des armes automatiques. On s'attend à l'arrivée des maquisards pour prendre le contrôle de la ville. Mais ils ne courent pas ce risque, car les miliciens du département ont tous été appelés à Bourg le 7 juin. L'occupation de Bourg par les résistants ne pourrait se faire qu'au prix du sang. Quel responsable peut prendre ce risque, surtout dans une guerre franco-française?
Le 8 juin, les autorités régionales allemandes ordonnent le dégagement des routes. Le préfet envoie des équipes des ponts et chaussées, mais elles sont refoulées à l'approche des barricades. La tâche est reprise le lendemain avec l'aide de miliciens pour dégager au moins la route de Bourg à Lyon. Cela est fait. Et pendant ce temps, les Allemands dégagent la route de Bourg à Mâcon. À quel prix? On ne sait pas trop. La milice et les Allemands ne communiquent pas aux autorités civiles.
Des zones entières restent sous le contrôle de la résistance, du Revermont jusqu'au Bugey. Les Allemands reprennent le contrôle de Coligny et de Vona. Ils peuvent circuler par la vallée de l'Albarine à leurs risques et périls. Les résistants disposent d'explosifs et de nombreuses armes pour continuer leur sabotage. Pour leurs besoins vitaux, ils commettent des vols de victuailles, mais aussi de tampons de mairie pour la fabrication de faux papiers.
La situation est vraiment insurrectionnelle. Des intimidations et des meurtres sont commis. Au 14 juin, la milice impose un couvre-feu de 18h à 7h du matin. Nous sommes en plein été, c'est très gênant pour les travaux des champs et le ravitaillement des gens de la ville. Ce couvre-feu court jusqu'au 22 juin et la milice l'a imposé sans consulter le préfet. Elle a réquisitionné les écoles Bichat et Caria pour héberger ses troupes.
La situation ne convient pas aux Allemands, qui arrivent en nombre le 9 juillet. Le lendemain, ils bouclent la ville. À 7h du matin, un camion circule dans les quartiers. Un pompier a été réquisitionné et au son du clairon, il annonce que tous les hommes de 17 à 45 ans doivent se regrouper au point de rassemblement. Gare aux récalcitrants. Les autres hommes doivent attendre chez eux.
La peur s'abat sur la ville. La vérification des identités est faite dans la cour de la préfecture. Les Allemands découvrent des pansements anglais dans la poche de Marcel Lambert. Il est aussitôt abattu dans une cour adjacente. Son frère de lait, Célestin Servillat, est amené devant la foule et froidement abattu au pistolet. Son corps est laissé sur place et les contrôles continuent.
Les hommes sont d'abord enfermés dans les trois cinémas de la ville et selon un document des archives municipales, ils sont 1068 à être retenus. Quelques-uns sont relâchés le soir même. Un rapport de gendarmerie indique qu'un train attend en gare, mais que D'Agostini, le chef de la milice, serait intervenu auprès de Vichy pour faire libérer des otages. De nouveaux contingents sont progressivement libérés. Au 14 juillet, ils ne sont plus que 29. Et au matin du 20 juillet, 10 cadavres sont découverts en bordure de Seillon, des hommes fusillés, dont 7 juifs.
Au matin du 11 juillet, les Allemands quittent Bourg pour donner l'assaut dans le Haut-Bugey, de tous côtés. Nantua est repris le 13 juillet et Oyonnax, que l'aviation allemande a bombardé, est repris le 14 juillet. Partout, les combats sont rudes et 85 maquisards sont tués et environ 80 blessés. C'est relativement peu par rapport aux forces engagées par les Allemands. Des maisons et des villages brûlent, à Cerdon, Dortan et dans tout le Revermont.
Meurtris mais non abattus, les maquisards reprennent leur combat contre l'envahisseur et dans moins de 2 mois, ils connaîtront les joies de la victoire. Nous aurons l'occasion de l'évoquer à cette antenne dans une prochaine chronique du passé. Nous remercions Rémi qui a préparé cette émission avec nous et Jimmy à la technique. Nous nous quittons avec le chant des partisans par le chœur de l'armée française, musique d'Anna Marly, paroles de Joseph Kessel et Maurice Ruon. Au revoir à tous.
Camarades, sortez de la paille.